comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Bonsoir à toutes et bienvenue dans Comme un lundi, le journal d'information locale de Radio Albigès avec Melvin à la technique. Bonjour Melvin.
Salut à tous.
Et Will à l'animation. Bonjour Will.
Oui, salut Arnaud.
Alors quel est le beau programme de cette édition du lundi 20 septembre ?
Lundi ensoleillé qui était parti sous la pluie bien ensoleillée. On aura le répondeur avec une annonce à la fin de l'émission. On aura des brèves. On va parler de l'association Lumus, on va parler d'une manifestation, on aura des échos de la manifestation en soutien à l'Afghanistan, en tout cas aux Afghans. On aura une pause musicale qui parlera du bol d'air, pause musicale du sud du Tarn. On parlera aussi de l'atelier PEN qu'il y a eu sur le printemps des cultures. Et au niveau des printemps des cultures, on entendra aussi Carole de l'EPE qui nous présentera ça. Mais on commence tout de suite, Arnaud, avec toi, on va parler de la nuit des chercheurs.
Et oui, oui, la 17e édition de la Nuit européenne des chercheurs se déroulera à Albi ce vendredi 24 septembre du côté de l'espace culturel des Cordeliers, mais aussi sur Internet. Une 8e édition albigeoise organisée par l'École des mines d'Albi et l'Université Champollion. Vous pourrez retrouver sur nos ondes une émission spéciale ce jeudi à 16h et vendredi à 8h dans le créneau Écho des Campus. Nous vous en proposons aujourd'hui un extrait avec l'interview de Philippe Guillot. Il est professeur des universités, directeur de laboratoire et directeur de la recherche à l'INU Champollion. Et ensuite, vous entendrez l'interview de Jacques Lamotte, directeur recherche et innovation à l'IMT MID, pour nous présenter cette 17e édition de la Nuit européenne des chercheurs. Un événement qui va permettre au public d'en savoir un peu plus sur le monde de la recherche qui peut paraître souvent compliqué, inaccessible pour le grand public. Alors j'ai envie de dire, il y a un double enjeu pour le public d'en savoir un peu plus sur le monde de la recherche, mais aussi pour vos chercheurs d'essayer de vulgariser un peu leur recherche.
Alors tout à fait, et d'où finalement cette idée très intéressante de sortir un petit peu les chercheurs de leur zone de confort, c'est-à-dire de leur laboratoire, et de les amener au plus près du public. Donc voilà, c'est la raison même de l'événement qui va nous réunir en partenariat avec nos collègues de l'École des Mines. Donc les chercheurs seront en dehors des laboratoires et à la rencontre du public. D'autant plus cette année où après une NEC 2020 passée donc qui a été exclusivement à distance. Nous investissons à nouveau le centre-ville d'Albi et bien sûr, pour le plus grand bonheur des chercheurs qui vont se mobiliser dans cet événement, et je l'espère pour le public qui sera nombreux. Cette année, quelques particularités justement au niveau des contacts que pourront avoir les publics présents et les chercheurs sont organisées les balades scientifiques. Donc là, il y a une originalité où on va pouvoir déambuler dans les rues d'Albi sous forme de groupe, mais accompagné d'un chercheur, pour découvrir ses travaux, mais de manière un peu plus originale, ludique et interactive, et surtout en situation avec le centre-ville d'Albi, ce qui n'est pas facile, mais qui permettra de positionner les activités de recherche. Le retour des flash comptes mystères, alors... un format qui est intéressant parce que c'est un doctorant qui à partir d'une photo fait découvrir et fait deviner finalement ses activités de recherche pour ensuite les développer devant le public. Et nous avons conservé un certain nombre de formats en ligne où nous avons essayé un peu d'apporter de l'originalité puisqu'il y aura notamment la playlist des chercheurs donc sous forme vidéo. Ce sont des chercheurs qui viennent partager un morceau préféré pour parler de leur sujet en musique. La partie message sous forme de questions-réponses où des chercheurs ont été interpellés et donc présentent leur vision de leur recherche et de leurs activités, mais basées sur des questions qui ont été posées préalablement. Et ensuite, une partie carte du monde interactive où on va découvrir un terrain de recherche en vidéo. Vous voyez, cette année, on renoue avec le centre-ville d'Albi. On a gardé également une partie à ligne, de manière à pouvoir satisfaire finalement l'ensemble du public.
Une nuit des chercheurs du local à l'international, puisqu'elle est placée aussi sous la thématique européenne du voyage.
Tout à fait. Alors cette année, la thématique, comme vous venez de le préciser, c'est le voyage. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a commencé un thème à développer, on n'impose pas, bien sûr, aux contributeurs et aux chercheurs le thème, mais on leur demande de toujours tenir compte de ce thème et donc d'effectuer des présentations qui soient toujours liées à ce thème. Alors, de près ou de loin, je dirais, et on a toujours ce fil conducteur, mais bien qu'il y ait un fil conducteur cette année autour du voyage, je crois que ça met surtout en évidence la diversité des disciplines, la diversité des recherches qui sont menées sur notre territoire et la complémentarité qu'il peut y avoir entre nos deux établissements.
Un mot à rajouter sur la nuit des chercheurs ou sur un prochain événement, Philippe Guillot ?
Non, écoutez, vous remercier pour le soutien que vous apportez à cet établissement et remercier également tous les partenaires qui se mobilisent pour faire de cet événement un succès et également le public qui, je l'espère, viendra nombreux comme chaque année. Merci beaucoup.
Effectivement, le programme va se dérouler à la fois en présentiel et en distanciel. En présentiel, il va se dérouler autour de la Tanor et autour du parvis du Grand Théâtre, mais aussi dans la ville d'Albi. Donc typiquement, au niveau de la Tanor, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle flanches confinistères faites par des doctorants qui vont essayer de vous faire deviner de manière un petit peu énigmatique leur sujet de recherche pour pouvoir être capable d'avoir une relation interactive avec le public pour essayer de faire découvrir leur sujet de recherche. Un deuxième type d'action qui vont être organisées, ce vont être des balades scientifiques dans la ville d'Albi. Donc il y a 8 balades scientifiques qui sont organisées et qui vont permettre à des groupes de personnes de découvrir une thématique avec un enseignant-chercheur qui leur présentera cette thématique tout en se baladant dans la ville d'Albi. Le programme de ces visites est disponible sur Internet. Et ensuite, il y a toute une activité qui va pouvoir se faire en ligne. Et en ligne, il y a un certain nombre d'actions. Alors, d'abord, ce sont des playlists de chercheurs, des messages de chercheurs qui ont été enregistrés et qui sont disponibles. Il y a une carte du monde interactive sur laquelle vous pourrez vous balader et cliquer pour découvrir des thématiques et les relations que peuvent avoir ces thématiques de recherche avec le monde entier. Et ça, ce sont des actions à portée nationale. Et dernière chose qui va avoir lieu. C'est ce qu'on appelle un speed searching. Donc, ce sont des enseignants-chercheurs avec lesquels vous pourrez interagir. Et donc, il s'agit là, par contre, il y aura besoin d'une inscription pour pouvoir y accéder. Et ça vous permet d'interagir avec un chercheur pendant 10 minutes et de poser des questions. Donc, ça, c'est une action nationale avec des chercheurs de partout en France avec lesquels vous pourrez interagir.
Pour terminer cette interview, on va parler un peu de la place des doctorants qui seront présents aussi lors de cette nuit des chercheurs.
Alors, les doctorants sont effectivement présents lors de cette nuit des chercheurs. Nous avons 87 doctorants sur l'école. Ils participent justement au flash conférence qui vont vous être présentés. Donc, vous aurez à deviner un petit peu la thématique que présenteront ces doctorants. La thématique cette année de la nuit des chercheurs, c'est le voyage. Il faut savoir que sur les 87 doctorants que nous avons, la moitié sont d'origine internationale. Donc, les échanges qui pourront avoir lieu aussi avec ces doctorants pourront être tout à fait intéressants et pertinents et permettre au public de découvrir la science à un niveau mondial, qui peut-être me semble intéressant. Classiquement, nous attendons de l'ordre de 1000 personnes qui pourront venir participer, tout public, du plus jeune âge de 7 à 77 ans, je dirais, qui pourront participer à ces différents événements. En plus des activités qui sont au programme sur la nuit du 24 septembre, il y a aussi des activités qui sont au programme sur les jours du 23 et 27 septembre et qui touchent justement au speed searching, donc à la rencontre et la possibilité de discussion avec des enseignants-chercheurs. Donc le programme, il porte à la fois sur le 24 septembre, mais aussi sur le 23 et le 25. Et nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir.
Jacques Lamotte, directeur recherche et innovation à l'IMT Mines d'Albi, et Philippe Guillot, professeur des universités, directeur de laboratoire et directeur de recherche à l'INU Champollion, pour nous présenter cette 17e édition de la Nuit européenne des chercheurs qui se déroulera donc à Albi ce vendredi 24 septembre du côté de l'espace culturel des Cordeliers. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver plus d'informations dans le créneau Écho des Campus avec une émission spéciale consacrée à cette nuit. Écho des Campus, c'est ce jeudi à 16h et vendredi à 8h sur Radio Albigès.
Comment allez-vous ?
Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Alors Arnaud et Melvin, vous étiez mercredi dernier sur le printemps des cultures, donc mercredi c'était le jour des enfants, on a eu aussi des choses qui se sont passées le vendredi, mais là on va parler de Carole que tu as croisée, je crois, mercredi dernier, donc à Cantepo.
Et oui, avec Melvin, on a réalisé un plateau et animé cette belle journée consacrée aux enfants, une journée ensoleillée et animée avec la présence de plusieurs stands. Donc avant de retrouver une émission spéciale consacrée à cette journée, où on retrouvera donc la médiathèque, mais aussi le club de cirque et les plasticiens volants, on vous propose d'écouter un extrait avec l'interview de Carole Sanchez-Petit. Elle est coordinatrice départementale à l'association EPE du Tarn, EPE comme l'école des parents et des éducateurs.
Donc les activités, nous avons toujours des activités de soutien à la parentalité. Dans le quartier, nous avons le café des parents à côté d'SOS Bébé le jeudi après-midi. Le café des parents se retrouve aussi, les bénévoles viennent à l'épicerie sociale tous les vendredis après-midi. Nous avons fait la rentrée scolaire avec des bénévoles et des professionnels du quartier sur l'école maternelle Jean-Louis Fieux, comme dans les autres quartiers d'Albi. Nous avons effectivement toujours un service de médiation familiale. Nous avons un groupe de parole pour les grands-parents qui se tiennent donc dans nos locaux tous les premiers jeudi matin du mois. Nous avons aussi des actions à destination des femmes sur le volet santé, qui s'appelle Ma santé, mon corps et moi. Il va y avoir une prochaine programmation pour le mois de novembre et décembre. Donc là, il faudra se rapprocher des animatrices et animateurs de la maison de quartier pour avoir l'information. Voilà, en fait, on se développe et on continue les activités sur Albi. On se développe surtout aussi sur Carmo et dans le sud du département.
Merci, Carole. Donc, on peut préciser que la plupart des actions que vous proposez sont entièrement gratuites. Déjà, l'information est gratuite, l'accompagnement et la médiation.
C'est ça. Nombre de mamans que nous connaissons déjà depuis très longtemps pourraient venir témoigner à ce micro de ce qu'on propose en termes d'accompagnement, puisque effectivement nous avons des consultations psychologiques gratuites pour les enfants, leurs parents ou pour la famille entière. Nous avons également le café des parents qui est gratuit, Ma santé, mon corps et moi qui est gratuit, toutes les actions avec l'école qui sont gratuites également. Il y a juste les séances de médiation familiale qui sont payantes sur le barème de la CAF, puisque c'est la CAF qui pilote ce dispositif.
Allez, n'hésitez pas, pour avoir plus d'informations, on peut vous contacter par mail, si je ne me trompe pas, à coordination81@ecoledesparents.org. ou bien par téléphone au 09 51 14 92 71. Carole, ben merci bien.
Je voulais juste signaler que nous allons accueillir une nouvelle jeune femme dans l'équipe, puisque nous avons beaucoup de bénévoles, et nous allons recruter une jeune femme qui s'appelle Seynabou et qui va donc être employée pendant 2 ans. Juste pour finir, nous avons une grosse journée le 21 septembre, donc dans quelques jours, où nous allons retravailler avec les adhérents, les sympathisants, les salariés et les bénévoles les valeurs de l'EPE les activités de l'EPE et sûrement de nouvelles créations arriveront après ce séminaire.
Carole Sanchez-Petit, coordinatrice départementale à l'association EPE du Tarn, l'école des parents et des éducateurs. Une interview réalisée le mercredi 15 septembre dernier à l'occasion de la 21e édition du Printemps des Cultures de Cantepot. Une émission spéciale sera bientôt consacrée à cette manifestation. Une émission à retrouver sur nos ondes.
Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi?
Comme un lundi sur Radio Albitzès. Le printemps des cultures, ou l'automne, pourrait-on dire presque, c'était aussi une animation autour du blé citoyen, le réseau des jardins et des champs, autour duquel gravitent notamment la SCOP Les Mains sur Terre, l'association Terre Citoyenne Albigeoise, l'association Pétanielle, et tout plein de petites mains du jardin, boucler la boucle agricole et citoyenne dans le quartier de Cantepot le vendredi 17 septembre dernier, après la moisson accomplie et le battage de blé citoyen et paysan de Pétanielle. Fin juillet, le réseau des jardins et des champs invitait les habitants et habitantes à participer à la transformation du blé en farine puis en pain autour d'un moulin et d'un four mobile via l'association du pain et des jeux. On en écoute quelques échos avec ici une classe de latinistes du collège Jean Jaurès venue voir cette curiosité.
Venez, venez, on va marcher dans la pelouse.
Bonjour. Non mais là on t'a la main.
Bon la place comme elle est sèche là.
C'est bon. Et vous connaissez cet endroit là? Vous habitez dans le quartier?
Oui.
Non.
Juste là.
Juste là, donc tu connais bien.
Et il y en a un qui est absent, Adam, qui habite là aussi.
Ok. Et bien, donc là, c'est le jardin partagé du centre de Cantepot. Et aujourd'hui, on s'est amusé à faire venir Daniel, paysan boulanger.
Bonjour.
Et son moulin mobile. Et du coup, on va s'amuser tout l'après-midi. Et puis Arnaud et Karine de l'association du pain et des jeux, qui eux ont amené un four mobile.
Ça, vous pouvez le dire en latin, du pain et des jeux.
Panem et
circenses.
Et du coup, on va s'amuser ensemble tout l'après-midi et jusqu'à 19h ce soir. Donc si vous avez envie de revenir après les cours, c'est bienvenu. En plus, c'est la fête ici toute la soirée. On va s'amuser à faire le dernier maillon de la chaîne de ce que vous avez fait avec Bérangère. C'est-à-dire, il y a eu du blé semé à droite et à gauche,
récolté. C'était de l'orge.
Vous, c'était de l'orge. Mais différents types de céréales qui permettent de fabriquer, entre autres, du pain. Les deux sacs blancs avec des tuyaux jaunes qui sortent là, c'est des sacs de, c'est du blé qu'on a récolté cet été, qui avait été semé sur un terrain à l'Escure d'Albigeois, mais par des jardiniers de droite et de gauche, de manière complètement amateur. On a semé à la main, on a regardé si ça poussait ou pas. Bon, on n'a pas été aussi fort que des vrais paysans qui savent faire ça bien,
comme
mais
nous, hein.
On a récolté quand même un peu de blé, et aujourd'hui, on va le transformer en farine et en pain. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait déplacer tout ça. Et c'est ce qui pourrait arriver aussi à votre orge. Tu vas nous expliquer ce qui arrive à l'orge une fois qu'on l'a récolté? Fatigué, on vient de finir de monter. Là. Pour ceux qui ont participé l'année dernière à l'opération d'orge, est-ce que vous vous souvenez, on avait parlé d'une collection. Ça vous dit quelque chose?
Ouais. Vous ne les mettez pas dans des sachets un peu pour les collectionner?
Voilà, on entretient une collection vivante. Sur la table, là, vous avez deux gerbes. Il y a un petit épeautre. C'est quoi du petit épeautre? C'est du blé? C'est de l'orge? C'est quoi?
C'est une variété de blé.
C'est une variété de blé.
Ouais, c'est vraiment une, on va dire, pour comparer avec les animaux, c'est une race. Voilà.
Ok. Donc là, il y a deux races de blé très très différentes sur la table. Et après, on ira interroger Arnaud et Karine. Eux, quel blé ils aiment, quel mélange de blé ils aiment bien utiliser dans leur farine. Souvent, pour faire du pain, on mélange différentes sortes de blé, sinon ils ne gonflent pas assez. Ils vont nous expliquer tout ça. Donc là, aujourd'hui, dans le mélange, nous, on a semé en mélange les deux sacs blancs qu'on a récoltés. C'était du barbu de la Cône. Et on a un mélange de deux blés là qu'on avait mis en plein champ.
Le blé, le, Alors là, c'est des variétés, c'est pas des races. Hein. C'est-à-dire que dans une même race, il y a plusieurs variétés. Alors on va dire, c'est pas espèce, c'est entre race et espèce. Je ne sais pas intervenir. Bon bref. Et donc, il y a plusieurs variétés. Voilà. Donc, là, c'est du blé, ce qu'on a appelé poilu du Tarn, parce qu'il a des petits poils sur le grain. Et un autre qui s'appelle le barbu de la Cône. La Cône, c'est une ville qui est dans le Tarn, dans le Cidobre, entre le Tarn et l'Aveyron. Et on l'a appelé le barbu parce que c'est un épi avec des barbes.
Voilà. Vous pouvez regarder ceux-là, ils sont très différents, ceux qui sont posés sur la table. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez toucher, c'est fait pour. Hein. Il y a certains blés qui ont des poils, d'autres pas du tout.
Le petit épeautre, il y en a qui voient ce que c'est, qui mangent du pain de petit épeautre.
On va aller interroger les boulangers là-bas, ils vont nous expliquer la différence entre tout ça. Et donc l'ange que vous ramenez aujourd'hui, il va rejoindre la collection de blé, donc l'association Pétaniel dont Daniel fait partie. C'est des paysans boulangers du réseau Semences Paysannes. Et leur truc, je me permets, hein, c'est de maintenir en vie des graines anciennes, pas forcément utilisées souvent dans les champs. Puis tout d'un coup, il y a un agriculteur qui dit « moi, c'est ça que je veux faire pousser, parce que je sais qu'avec ce grain-là, il va bien aller sur mon terrain, il va pousser bien et je ferai le pain qui me va. » Et du coup, ils maintiennent en vie 90 espèces de blé et orge, enfin de céréales, différentes, 90 espèces anciennes. Et donc là, ce que vous avez fait pousser, ça va être réintégré toute la collection, à la collection, parce que pour maintenir, faire une collection de cartes Pokémon, c'est pratique, on les range dans le placard, on les oublie 50 ans, 50 ans plus tard, la carte Pokémon, elle est toujours là. Mais le grain d'orge ou de blé, si je le range dans mon placard pendant 50 ans, je le ressors 50 ans plus tard, il est mort en fait. Je ne peux plus le ressemer, il ne va plus redonner un épi. Il faut ressemer tous les ans, dans l'idéal, ou au maximum tous les 2 ou 3 ans. Et donc l'association Pétaniel, c'est ce qu'ils font. Et ils demandent à des jardiniers amateurs, comme vous, comme l'école Saint-Exupéry, ils ont fait la même chose que vous, mais là, dans des petits carrés juste derrière, on adopte chacun 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés de semences, juste pour la maintenir en vie et la remettre dans la collection, une collection vivante.
Petit complément pour les latinistes. Les variétés et les espèces de blé, de graines les plus anciennes qu'on a pu reproduire, qui avaient gardé leur capacité germinative, c'est de l'époque des Romains. Et donc ça avait été stocké dans des amphores émaillées à l'intérieur avec c'est le système du coton que vous enflammez et vous fermez. C'est-à-dire que le feu à l'intérieur de l'espace clos du contenant va consommer l'oxygène et c'est l'oxygène qui donne la vie. Et donc, vu qu'il n'y a plus d'oxygène, la semence est en dormance. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel parce que pour les quantités qui ont été retrouvées archéologiquement, il y a peut-être un grain sur 60 000 qui a germé. Mais on est arrivé à remonter et principalement sur le petit épeautre, sur l'engrain, où on a retrouvé des variétés de l'époque romaine qu'on est arrivé à faire revivre à germer. Mais c'est très très exceptionnel.
Voilà. Génétique, quoi.
Pardon ?
C'est comme un patrimoine génétique, on essaie de faire. Après, c'est vrai que pour un grain, il se donne plusieurs grains, mais il faut pouvoir, avec des astuces comme ça, le faire vivre dans le temps.
Voilà, le faire. Et c'est pour ça qu'on a à peu près 70 jardiniers à l'association Pétaniel qui sèment chacun 1 mètre carré d'une variété de blé. Alors, on ne leur en donne qu'une, histoire qu'il n'y ait pas de croisement et que ça ne se mélange pas. Mais c'est grâce à ça qu'on fait de la conservation vivante, puisque la conservation morte, c'est dans des frigos et ça, c'est pas illimité. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, le frigo ou le congélateur, il crame par le froid, il brûle la capacité germinative du grain. Quoi.
Merci à Daniel Coutarel, paysan boulanger. Retrouvez l'intégralité des échanges autour du pain citoyen du réseau des jardins et des champs au printemps des cultures de Cantepo très bientôt sur nos ondes.
J'ai besoin d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer.
Alors comme ça on a fait des bêtises.
D'un lundi pour tout changer.
Eh ben tu pouvais pas mieux tomber mon garçon.
D'un lundi pour tout changer.
C'est comme un lundi sur Radio Albigès.
D'un lundi pour tout changer.
tous les lundis à midi et 18h.
Les 24, 25 et 26 septembre prochains, le festival Humble Air organisé par l'association Arpège et Trémolo revient à Pigouzon pour fêter sa 13e édition. L'événement de la rentrée culturelle accueille pour son 13e anniversaire Didier Wampas, Yves Jamais, Oldelaf et Alain Berthier, mais aussi Émilie Marche, Vlad et plein d'autres artistes, dont Jérôme Pinel, l'artiste mazamétain qui a dernièrement sorti un EP, La Valise d'Habib. Jérôme Pinel sera en concert ce vendredi 24 septembre à 21h pour le festival Humble Air. On écoute le titre La Tour, extrait de son EP.
Ils ont tombé la tour hier, celle qui se dressait à ma fenêtre. Depuis 20 ans j'ai sa gouttière, maman, qui me décale son mal-être. Tous les étés, tous les hivers, sa face de béton de 20 mètres m'a regardé apprendre et faire, m'a façonné comme un bon maître. Et ils ont tombé la tour hier. J'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier. J'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer. Ils ont tombé la tour hier, j'ai tant joué dans ces étages, les souvenirs dans la poussière, les bichocos, les cache-cache, les bouts de marelle par terre, les cris tagués à l'arrache, les premiers baisers à couvert, visage et plâtre se détachent. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer. Maman, y'avait la lune là-haut, toute la nuit, les yeux ouverts. J'ai pas dormi, ça brillait trop. Le monde et toutes ses lumières, et ce grand soleil sur ma peau. Ce matin, j'ai découvert que l'horizon, c'est un cadeau. Ils sont tombés la tour hier. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer.
La Tour de Jérôme Pinel, chanson française soul rock, ça s'est marqué sur le site Humble Air, à retrouver donc sur le Pigouzon, donc à www.boldair.net pour la programmation et pour la billetterie de donc cet événement organisé par Arpège et Trémolo.
Et maintenant, que faire maintenant?
Ben, on reste calme et on continue d'écouter Comme un lundi sur Radio Albit 6. Le vendredi 10 septembre dernier à 18h, place du Ligan à Albi, avait lieu un rassemblement à l'initiative de réfugiés afghans dans le Tarn, un rassemblement donc organisé pour mettre en lumière les difficultés de certains et certaines parmi la soixantaine de réfugiés et de leurs familles menacées restées en Afghanistan. Plusieurs associations et organisations se sont joints à ce rassemblement de soutien. RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, Albi, ou son antenne aussi de Castres, Solidarité Migrants Groyer, Les Amoureux au Banc Public 81, la CIMAD 81, 31 et 47, le Planning Familial 81, le MRAP, groupe d'Albi et de Castres, la LDH 81, Ligue des droits de l'homme, la FSU 81, Sud Solidaire Tarn, le NPA, PEPS, Confluence, Tarn Autogestion et Alternative, l'Union départementale CGT Tarn, Attaque Tarn, la Libre Pensée 81, le Parti de gauche et le groupe d'action du Tarn de la France Insoumise. Bérangère était sur place pour nous en ramener quelques échos.
Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour venir ici. Comment vous savez qu'en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé dans 3 semaines? Mais c'était une question pour nous et pour tout le monde. Pourquoi Afghanistan, ils sont donnés comme un cadeau pour le terrorisme? Pourquoi c'était une question? Est-ce que vous avez cette question dans votre tête ou pas? Est-ce que le 20 ans, les démocraties, actes de démocratie, les républiques, c'était un jeu? Oh, c'était un projet. Moi, j'ai grandi avec ce drapeau. Dans la République et acte démocratie, je suis allé même à l'école. Mais aujourd'hui, tout ça retombé. C'est pourquoi? Mais 1995, l'Europe et les États-Unis sont allés pour casser le système des Émirats des Talibans. Ils sont restés 20 ans là-bas. Mais c'était quoi le résultat de ces 20 ans? Est-ce que vous avez le résultat de ces 20 ans ou pas? Vous perdez le millier de soldats. Vous perdez le milliard de dollars. C'était quoi le résultat? Ça, c'est une question dans notre tête. Mais je veux que vous ayez cette question dans votre tête. Ce que si vous regardez dans votre télé, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais hier, j'ai regardé un moulin qui parlait dans les médias d'Afghanistan. Journaliste, il a posé des questions à cette moula. Il dit, la femme, c'est moitié de la société. Mais le moula, il dit, comment, pourquoi c'est la moitié de la société? Je suis désolé pour dire ça, mais aujourd'hui en Afghanistan, la femme, c'est comment pour garder le poulet en mouton dans la ferme. C'est pas juste pour les femmes, pour les gens qui sont allés à l'école et les gens qui sont allés à l'université. Dans cette 20 ans acte de démocratie et de république, les femmes sont allées à l'école. Même le Parlement, dans toutes les choses qu'on fait dans l'État. Mais aujourd'hui, ça a refermé. Et pourquoi?
Pourquoi?
Ça, c'est un pourquoi dans notre tête. Pourquoi? Mais on est ici juste pour se vivre, pas être pour plaisir. Moi, je suis échappé de mon pays en 2014. Mais, ok, vous voulez laisser 100 000 personnes, 200 000, 300 000 et 1 million de personnes pour le venir en France. C'est un grave pour les 35 millions de personnes afghanes qui sont habitées en Afghanistan. Merci. Merci beaucoup. Mon âge, je ne sais pas comment, combien, je ne sais pas mon âge parce que c'est à cause de la guerre. En Afghanistan, ça fait 43 ans que c'est la guerre. Nous, on a des questions, pourquoi? Ce n'est pas une guerre religieuse, c'est une guerre politique. Mais les Afghans demandent cet Afghan, ils ne savent pas pourquoi. Mais vous aussi, pourquoi? Parce que même le Mujahideen, c'était la même terroriste que mon Taliban. L'Al-Qaïda, le Daesh, le Taliban. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi la différence avec le Mujahideen, avec le Taliban, avec le Daesh, le Taliban? C'est quoi la différence? Tous ils ont tué les Afghans pour l'islam. Tous ont fait la femme fermée dans la maison pour l'islam, c'est quoi? Est-ce que c'était l'islam? Non, c'était pas l'islam. Même je ne sais pas si c'est l'islam ou pas, mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut vivre comme vous. Vous avez la force pour notre voisin, parce que vous avez la force démocratique et diplomatique. Vous pouvez faire ça, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire. Nous, on va demander à l'État européen. Et les États-Unis qui ne nous écoutent jamais, toujours ils sont faits comme ils veulent. Mais on va demander à vous, s'il vous plaît, c'est pas juste pour le 100 millions de personnes qui vont être venues en France ou l'Europe, c'est ça grave pour le 35 millions des Afghans. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour écouter, merci.
Écoutez ERSF, émission Radio Sans Frontières, l'émission mensuelle de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. C'est l'émission de septembre 2021, une émission qui restitue les prises de parole lors d'un rassemblement à Albi le 10 septembre 2021 à l'initiative de personnes afghanes réfugiées dans le Tarn en soutien à ces personnes afghanes et pour demander l'accueil de leurs familles et de leurs proches restés au pays, de toutes celles et tous ceux qui sont en danger depuis la prise de Kaboul par les talibans.
Cette personne derrière que moi, il vous cachait son visage de la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut partager les vidéos, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne veulent pas montrer son visage parce que c'est dangereux pour eux. Mais c'est ce que j'ai dit avant, mais il va vous dire la même chose, un peu différent. Mais le camp et le ferme de terrorisme, c'est dans notre voisin, pays notre voisin, en Pakistan. Iran. Il y a tout le terrorisme, c'est là-bas. Ils sont construits en école de religieuse. Ils sont prendre les petits enfants de son parent. Ils sont prendre là-bas. Et après, ils sont renvoyés avec le nom d'islam pour le défendre l'islam dans notre pays. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas musulmans? Oui, mais juste pour le casser le système. Là-bas, il y a acte de démocratie, mais nous, on a avoir le force l'islam. Pour le forcer les gens et effacer la liberté et effacer la parole. C'est ça. On a le problème de liberté de parole. Dans 20 ans qu'on avait un acte de démocratie, on avait le droit de parler libre. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de ça. À cause de l'Emirat islamique de Taliban, un groupe terroriste. Vous connaissez bien, par la télé. Où ils sont en train de jouer avec notre vie, avec notre prochaine génération. Dans ma tête, que je pense, on avait le 20 ans comme un rêve, comme un paradis. Mais ça, ça arrêtait. Mais 20 ans commencé, 20 ans on est allé, 20 ans on est grandi, 20 ans on est allé à l'école, université, on avait les femmes dans le parlement, dans l'université, partout. On avait la moitié de la société, les femmes. Mais aujourd'hui, avec les Émirats, et ça touche à casser. Mais est-ce que le monde, il ne regarde pas? Pourquoi eux, ils sont fermés, sans yeux? Pourquoi? J'ai fait traduire, qu'est-ce qu'il parlait?
Bonjour à tous, bienvenue. Je vous parlais pourquoi on est venu aujourd'hui ici, pour vous montrer, ça veut dire quoi le drapeau de l'Afghanistan. Le drapeau, le couleur noire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui est mort de l'Afghanistan. Ça fait 40 ans qu'ils sont morts. Il y a beaucoup de gens chaque jour en Afghanistan. Le rouge, ça veut dire quoi? Le rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est mort et il n'y a personne qui demande pourquoi ils sont morts. Est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'on a droit de vivre comme vous ou pas? Aujourd'hui, je le sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Françaises, et la question de poser pourquoi les Afghans venir ici. Pourquoi? On est venu ici pas pour gagner l'argent. Tous les Afghans, il a une Afghanistan, tout. La voiture, la vie, la maison, tout. On est venu ici pour commencer la vie comme les 11 personnes qui ont droit de vivre, comme vous. Si vous avez 11 jours loin de votre famille, après vous avez senti comme nous, comment je me sens. Ça fait 10 ans que je suis loin de ma famille. Ça fait 1 mois que j'attends le poids de ma famille. Qu'est-ce que c'est pas l'Afghanistan? Si j'ai tout ici, si j'ai pas ma famille, c'est rien.
pour moi. On vous avait, c'est chaque jour vous avez attendu, qu'est-ce que c'était la médiane? La médiane, ça veut dire rien que le Taliban, il ne laisse pas la médiane qui parle. Le journaliste tue en Afghanistan le moment. Les femmes qui sont fermées, les femmes qui veulent liberté, elles sont fermées dans nos maisons. Vous avez vu la vidéo? Est-ce que les femmes doivent la même liberté comme les hommes ou pas? Les femmes, c'est mon soeur, les femmes, c'est mon mère. Merci à tous et bonne soirée.
Je m'appelle Ousmane Bali, donc j'ai 16 ans. Donc moi, je suis sur Albi, ça fait que quelques mois. Mais je connais beaucoup d'Afghanistan et beaucoup de personnes qui critiquent les Afghanistan, enfin les Afghans plutôt. Et en fait, les gens se fient beaucoup aux apparences et ils disent beaucoup que les étrangers ils viennent en France que pour l'argent, alors que bah, les Afghans ils viennent surtout pour retrouver la vie, essayer de retrouver leur famille. Et que bah, je trouvais ça injuste de la part des Français de penser ça parce qu'on est censé être solidaire. Et que bah, moi j'étais tout cœur avec les Afghans et que c'était des personnes magnifiques et que je leur souhaitais bah, tout le courage du monde, quoi.
Et toi, tu les connais comment? C'est des gens que tu côtoies à l'école?
Oui, bah, j'ai mon copain qui est afghan. C'est grâce à lui, du coup, j'ai pu connaître beaucoup plus d'Afghans. Et malgré qu'ils soient nombreux, ils ne sont pas forcément ici pour l'argent. Genre, ils travaillent, en fait, ils veulent être considérés comme tout français. Avoir droit au logement, enfin, à tout, quoi.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était un extrait de la prise de son de Bérengère lors du rassemblement à l'initiative des réfugiés afghans le vendredi 10 septembre dernier à 18h place du Vigan à Albi. Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans l'émission ERSF, l'émission radio de RESF, elle-même dans le créneau Mondophonie, le lundi à 14h, le mercredi matin à 8h et le samedi à 20h. Hop, hop, ben ça c'est pas sûr du tout. Hein. En tout cas, c'est toujours l'émission comme un lundi sur Radio Albitses, l'hebdo avec tout ce qu'il faut. Quel pessimiste ce Clo-Clo, je te jure. L'humus, vous savez, c'est cette couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de la matière organique, essentiellement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. Mais l'humus, c'est aussi une association d'éducation populaire toute jeune et qu'on a croisée avec une partenaire à elle, l'association La Mèche de Marseille, l'occasion de reparler ensemble d'éducation populaire plus que jamais d'utilité publique.
Alors, moi c'est Sylvain. Je suis gaillacois depuis un certain nombre d'années et j'ai co-créé l'association L'Humus. L'Humus est une association qui est dans la mouvance du réseau des CREFAD, qui est une association nationale d'éducation populaire.
Moi, je m'appelle Étienne, je fais partie d'une association qui s'appelle La Mèche. On a créé avec quelques amis en 2018 à Marseille et qui est aussi une association qui est assez proche du réseau des CREFAD et voilà, donc qui s'inscrit aussi dans un mouvement d'éducation populaire et qui principalement anime des formations, fait un peu de l'accompagnement de groupes, de collectifs, de la gestion de conflits aussi dans les collectifs.
Alors si je vous dis, alors de mémoire, hein, peut-être vous me corrigerez si vous, je pense que vous la connaissez, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les êtres humains s'éduquent par l'intermédiaire du monde.
Ouais, Paulo Freire,
quelque chose,
ouais. Il me semble.
Alors ça, on parle d'éducation populaire et tout ça, est-ce que c'est une des définitions qu'on pourrait attribuer à l'éducation populaire?
Oui. Oui, oui, je pense que c'est, on pourrait dire que ça pourrait être un credo, comme on dit, je pense, de l'éducation populaire. Oui, il y en a d'autres, comme voilà, ce serait dire que c'est l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc oui, dans l'éducation populaire, ouais, il y a un petit peu cette idée là de aussi. Remettre un petit peu en cause la distance entre l'élève et le maître et de se dire en fait Les choses vont dans les deux sens, l'élève est aussi maître et le maître est aussi élève, quoi. Quelque chose un peu du style.
Et on y arrive sur le réel ou pas? Dans vos expériences respectives, est-ce que
c'est bien? Ah oui, absolument. Bon, pour moi, l'éducation populaire, c'est aussi de donner de la place justement aux expériences individuelles de chacun chacune et aux expériences collectives, mais en tout cas aux expériences, et donc de démystifier les savoirs conceptuels et théoriques dénués du moins qui sont trop hors sol. C'est-à-dire que les savoirs conceptuels, ils sont super importants, mais pas plus que les expériences. On a besoin des deux. Donc pour moi, l'éducation populaire, c'est pouvoir faire du lien entre les concepts et puis son vécu, ses expériences, ses ressentis. Et même, on peut descendre jusque dans le corps, parce que c'est dans le corps que se vivent les émotions, que se vivent les ressentis. Et ça conditionne nos façons de penser, d'agir, etc. Dans la recherche, objectivement, on rend le subjectif objectif, dans le sens où on dit c'est un fait, je vis ça, et ça c'est un fait, c'est ce que je vis. Quand j'explique mon histoire, mon vécu, mes expériences, ça permet aux personnes qui vont lire ma recherche de savoir d'où je parle et de remettre en question ça. Donc c'est là que je me différencie du savoir qui se veut universel. Je dis ça, c'est ma vérité, et je l'assume comme étant ma vérité, et qu'il y a une petite contribution à la vérité collective. Dans les missions de l'Humus qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a l'idée de casser le mythe de la neutralité, parce que voilà, la neutralité, peut-être ça peut exister dans un cadre bien défini, comme quand en chimie on parle du pH, si le pH il est à 7, il est neutre, bon ça d'accord, mais dans les sciences sociales, dans le monde des idées, des pensées, de la politique, la neutralité c'est un mythe, ça n'existe pas. C'est de toute façon, on a de toute façon un positionnement, et il peut être inconscient. Et en général, quand on se dit neutre, c'est qu'on est en plein dans la norme sociale. Donc, notre différence, elle est invisible par rapport à ce qui nous entoure. Mais on n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas dans les sciences sociales.
Là, on se rencontre autour d'une formation sur qui s'intitule le kit de survie comptable. Ouais, est-ce que justement ça c'est un des outils, ou comme d'autres qu'on pourra citer peut-être, de se réapproprier au moins dans le milieu associatif des armes pour mener à bien les actions qu'on s'est données dans les statuts de différentes associations? Et est-ce qu'on peut citer d'autres outils qu'il faudrait un peu retravailler dans le milieu associatif, ou peut-être même chez les gens tout court?
C'est difficile de parler de manière hyper générale. C'est sûr que la comptabilité et la gestion, bon, c'est un ensemble de techniques, de méthodes, c'est un peu un domaine, c'est une manière aussi de regarder le réel, en fait, d'essayer de le traduire et de l'interpréter et de faire des plans un peu dans le futur aussi. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est intéressant de se former un petit peu sur ces questions-là. Et c'est vrai que, bon, là peut-être je vais parler plus en généralité, mais qu'on pourrait se dire que dans le milieu associatif en France, bon, il y a beaucoup d'associations, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de développer un certain nombre d'actions en passant par un modèle associatif, et que on pourrait peut-être, c'est un peu généraliste, mais se dire que voilà, il y a le monde de l'entreprise et le monde des associations, et que le monde de l'entreprise est clairement sûrement avec des gens plus formés sur ces questions-là, et que ça leur permet peut-être plus facilement de prendre des parts de marché,
de dominer
aussi la société par son mode de fonctionnement. Et donc, c'est vrai que l'association, c'est pas juste un format juridique, c'est quelque chose qui porte une histoire, qui vient d'une histoire plus longue, qui s'origine aussi dans les luttes sociales du 19e siècle. À ce sujet, il y a un très bon livre de Michel Rio-Sarcé sur la liberté, j'ai plus là le titre exact, mais qui parle notamment de du mouvement associationniste comme un mouvement proche du mouvement coopérativiste ou d'autres qui sont notamment développés au 19e siècle et qui portent une autre vision de la société ou de comment les êtres humains pourraient s'organiser pour fonctionner ensemble, pour subvenir à leurs besoins, etc. Donc voilà, et c'est vrai que la petite entrée par la comptabilité, c'est une des manières aussi, voilà, c'est une des entrées qui est peut-être aussi importante pour essayer d'asseoir avec peut-être un peu plus de pérennité les aventures associatives.
Merci à Sylvain de l'association Lumus et à Étienne de l'association La Mèche. L'éducation populaire, on continuera à en parler et pourquoi pas à en faire sur Radio Albitzès, avec notamment une émission qui reviendra sur une de ses origines autour de peuple et culture, mais aussi du droit d'association éminemment politique au sens noble du terme. À suivre donc. Arnaud, est-ce que tu as quelques brèves pour nous ?
Oui, on va commencer avec le festival de la rentrée à l'université Champollion. C'est le festival La Cour des Miracles. À noter que Radio Albitzès sera présent le mercredi 22 pour une présentation des ateliers radio et notamment de l'émission Radio Champo qui devrait reprendre sur les ondes de Radio Albitzès d'ici quelques semaines.
Quoi d'autre à se mettre sous la dent ? Je vois que tu as un beau programme du GMEA.
Et oui, le GMEA organise le festival Riverun, le festival des musiques expérimentales du 14 au 16 octobre. À noter qu'à l'occasion de ce stage, Radio Albitzès et la MJC d'Albi vous proposent un stage de création radiophonique pour les jeunes de 13 à 20 ans. Un stage à la fois technique et artistique pour découvrir le monde de la radio et des musiques expérimentales au programme Initiation aux techniques de l'enregistrement et du montage sonore. Tant de pratiques musicales collectives autour d'une partition, rencontre des musiciens et immersion au cœur du festival Riverun. Le stage aboutira à la réalisation d'une émission de radio diffusée sur les ondes de Radio Albitzès et aussi Radio Actopus. A noter que ce stage est encadré par moi-même Arnaud et aussi Amélie Agut. Elle est médiatrice au GMEA et créatrice sonore. N'hésitez pas pour vous inscrire à ce stage, c'est pour les 13 à 20 ans, à contacter Jennifer à la MJC d'Albitzès.
Le 25 septembre, l'association Village Action Durable organise à Montcabrier son Festivag, une première édition intitulée « La voie libre ». Cet événement festif et engagé pour l'avenir dénonce les projets de carrières illégales qui remettent en cause la déclaration d'utilité publique de l'autoroute Castres-Toulouse. Au programme de cette première édition, spectacles et concerts, avec entre autres les groupes Lamine et Hyperclean. Alors, rendez-vous au stade de Montcabrier, qui serait rasé par cette autoroute inutile et destructrice. Exigeons une alternative responsable à ce projet. L'entrée est gratuite, c'est le 25 septembre, de 15h à 2h du matin. Et ça va être énorme.
La boîte locale et vocale de Radio Albitzès, c'est au 05 63 77 61 75.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albitzès, à l'écoute de votre journal d'information locale, comme un lundi, c'est bientôt fini pour aujourd'hui.
Et oui, et bien, qu'est-ce qu'on peut vous raconter de plus ? On va faire un petit coucou à Clem qui est revenu déjà sur les ondes depuis deux semaines, qui nous prépare comme chaque semaine un nouvel host d'Apraki.
L'émission Baki l'actu a retrouvé tous les jeudis à midi et 18h, l'agenda de la culture occitane.
On attend avec impatience le retour de nos occitanistes aussi du lundi. Pour l'instant, c'est un petit peu des rediffs, mais on espère pouvoir les retrouver dans le studio bientôt.
Les chroniques d'Amnesty International vont reprendre prochainement, puisqu'ils vont enregistrer leur émission cette semaine dans nos studios.
Et on aura Paz, normalement, qui revient nous voir aussi avec une auteure, je crois. On verra bien c'est la surprise. En tout cas, ça devrait revenir sur les ondes dans le créneau « Lire des livres ».
On se donne rendez-vous dans quelques petites minutes pour l'agenda.
Allez, Oléo.
Al plaisir, brave monde. Et merci, Melvin, à la technique.